RMC, le Super Football Show, Jean-Christophe Drouet.
Et bonsoir à tous, si vous venez tout juste de nous rejoindre, c'est pas très bien, on est là depuis quelques minutes, on parle de la rencontre entre Strasbourg et Guingamp, la victoire des Guingampais 2-0, c'est l'afterfoot jusqu'à minuit, vous le savez, toujours avec Daniel Riolo et Ali Benarbia, une émission que vous pouvez suivre sur RMC, BFM Sport et rmcsport.fr. On continue pour l'heure de débriefer la rencontre entre Strasbourg et Guingamp, les Guingampais qui sont 6e de la Ligue 1 ce soir et nous accueillons Mathieu qui nous appelle au 32-16, supporter de Strasbourg. Salut Mathieu.
Salut les gars, meilleurs vœux à tous.
Salut Mathieu. Salut.
Bah, meilleurs vœux aussi à toi, mais bon, on quitte l'année avec une défaite face à Metz, sur la pelouse de Metz, c'est pas terrible. Et là, bah, c'est à domicile face à Guingamp.
Ben, je dirais que, bon, je suis pas content d'avoir perdu, mais elle arrive peut-être au bon moment par rapport à ce que disait Daniel tout à l'heure. On a surfé sur une vague un peu euphorique sur la première partie de saison qui était un petit peu bizarre. Le championnat est très très homogène. Et je pense que ça permet tout de suite de se mettre dans le bain en disant voilà, il faut surtout pas surfer sur les acquis. Le maintien, il est pas acquis du tout. Il va falloir se battre, je pense, jusqu'à la dernière journée pour être sûr de rester dans cette Ligue 1. Et voilà. Et ce soir, on est tombé sur une équipe guingantaise qui a été impressionnante tactiquement et au niveau de la discipline. Et voilà, ça m'amène sur deux points précis. Je pense qu'aujourd'hui, on ressent énormément l'absence de Jean-Hugues Daoulou au milieu de terrain. Et de Dimitri Yenard, qui mine de rien sont les rampes de lancement, dans la créativité du jeu. Voilà, s'en passer d'un, c'est une chose, se passer des deux en même temps, on se rend compte qu'il y avait rien, impossible de créer une action, d'apporter le danger devant le but Guingampais.
C'était très désordonné. Équipe,
Ouais, c'est ça, c'était un peu à l'arraché. Et puis par contre, le point, bon, depuis le début de la saison, il revient systématiquement. La défense centrale, l'axe de notre défense, enfin la défense toute court, et on est très faible, on le sait.
Ouais, c'était pas terrible ce soir.
Mais tu sais, Mathieu, moi je trouve même que ça a été, sur la première partie de saison, très étonnant, quoi. Parce que, bon, Mangan connaît, je veux dire, t'as 4 pieds carrés, là, dans l'affaire. Mm-hmm. T'as quand même des mecs qui sont plus que légers, quoi. Et sur la première partie de saison, parfois, je dis, putain, c'est pas possible, non, mais limite, vous en êtes plutôt bien tiré, tu vois, avec eux.
On a eu beaucoup de
réussite. Quand tu vois cette charnière centrale, tu te dis, putain, ça va être passoire à tous les matchs pour Strasbourg. Tu vois, les mecs, bon, alors, dans leur style, j'arrête le gars, je mets une savate devant, hein. C'est pas de la relance propre, évidemment, hein.
C'est... Mais ce que j'ai pas compris, c'est
mais
que
ça tenait. Et là,
le poste d'arrière gauche, il m'a mis pratiquement un défenseur central, là, encore aujourd'hui.
C'est cas, ça fait un moment qu'il met des cas sur le côté.
Parce qu'il a essayé un moment de centrer du gauche, c'est là que j'ai compris que c'était un défenseur central. Et j'ai dit, qu'il fasse quelque chose. Non, mais après, il a fait passer Lala à gauche après.
Cette charnière, c'est ça le souci, c'est que dès que Strasbourg est en difficulté, immédiatement, tu dis, ah oui, non, tu sais, tu reprends une claque, tu reviens à la réalité, tu fais, ah oui, non, c'est Koné Mangan, oui, effectivement.
Mais à tel point qu'on a eu la pression à un moment que tous jouaient avec les chaussures de Koné. Je suis un peu méchant avec Koné, mais c'est vrai qu'il y a eu un déchet technique incroyable.
Ah oui, bien sûr.
Faut pas déconner, j'ai entendu. C'est la troisième, hein. Ouais. Attention.
C'est bon.
Tu vas finir comme Bordeaux à 8. Hein. Fais très attention, il y aura beaucoup de cartons rouges. Oui, Mathieu, tu voulais ajouter quelque chose parce que le déchet de Strasbourg, c'est assez inhabituel à ce point quand même.
Ben, on s'est cassé les dents ici sur une équipe de Guingamp qui a montré un visage. Enfin, moi, j'étais personnellement assez séduit. Elle est impressionnante, cette équipe. Et je pense que c'est une des équipes les plus difficiles qu'on ait eu à jouer depuis le début de la saison. Sur le point, pas seulement sur la tactique, sur la discipline de cette équipe. Ils nous ont vraiment empêchés de...
T'imagines, même le PSG, c'était plus simple.
Ouais. Non, mais c'est...
mais t'as pas parlé de Terrier, Mathieu, c'est assez bizarre.
Pardon?
Tu as pas parlé de Terrier.
Mais Terrier, il est pas là, ce soir.
Non, je sais, mais tu as dit, il manquait, à Oulu, c'est ça, et,
Oui, t'as pas dit, en fait, qu'il manquait Terrier.
Ouais. Voilà.
Terrier, je dirais qu'en fait, offensivement, à part Idriss Saadi, qui est un flop un peu depuis le début de la saison, offensivement, tous les joueurs répondent. Que ce soit Blayak, Bauken, Terrier, Dacosta, ils ont tous mis quelques buts, tous participé, que ce soit au niveau des passes décisives ou autres. Au jeu offensif, je dirais qu'offensivement, on n'était pas trop inquiet parce qu'on a de la réussite et ça marche pour l'instant. Alors, ce soir, c'est pas trop Terrier, moi, qui m'a manqué. On aurait pu marquer des buts, mais on n'a jamais pu apporter des dangers.
Pas d'occasion,
Voilà, on n'a pas pu donner un sens.
Non, mais ce qui a manqué, c'est même pas tant les joueurs, c'est juste que l'équipe soit un peu compacte, que les mecs jouent tous ensemble.
Qui gardent le ballon et qui jouent au bon moment, surtout.
Ça a été ça, le problème. Mais c'était vraiment le collectif, quoi, qui s'est un peu disloqué.
Les déchets techniques des Strasbourgeois, comparé de l'autre côté, où les Guingampais réussissaient tout techniquement, c'était criant.
Ah oui, c'était criant. Merci beaucoup.
On n'alignait pas trois passes.
Oui, là, on l'a bien vu.
Ouais, mais souvent, techniquement, c'était compensé, parce que ça n'a jamais été des cracks techniquement, Strasbourg, quoi qu'il en soit.
Non.
Mais c'était compensé par les efforts physiques.
Oui.
Et qui permettent donc les bons déplacements.
Jouer simple,
ce qui fait que tu joues simple, tu te déplaces, Et ça, à partir du moment où physiquement, les mecs baissent un peu, vu que ce sont pas des cadres techniques, évidemment, tout de suite, ça fait des trous, quoi.
J'ai pas vu un bon centre aujourd'hui.
Et attention pour Strasbourg, car le prochain match en milieu de semaine, ce sera au Vélodrome face à l'Olympique de Marseille. Tu connais le programme par cœur. Merci beaucoup, Mathieu, d'écouter RMC de nous appeler.
On se souvient du match aller Strasbourg-OM qui avait été excellent. Strasbourg aura certainement pu gagner le match. Ouais. C'est vrai qu'avec ce calendrier là, c'est bizarre parce que je pensais que ça arriverait plus tard, ce match contre Marseille.
Il n'y avait pas Mitroglou qui avait marqué d'ailleurs.
Si,
incroyable.
On ne sait même pas s'il a vraiment marqué.
Est-ce qu'il met pas le but du 3-3?
C'est pas impossible. Il avait fait plutôt un bon match.
Je sais pas s'il avait fait un bon match. Le ballon lui était un peu tombé dessus et il a mis dedans.
Donc c'était un bon match.
Il voulait l'éviter. Et puis il s'est pris sur la tête.
Allez, nous allons parler du Paris Saint-Germain.
Il doit mettre du pied gauche, un ballon qui est un peu repoussé. Il pousse.
Mais on peut débriefer la rencontre Strasbourg-Marseille d'il y a deux mois. On va parler du PSG avant de reparler de l'affaire Cavani-Pastore. Les dernières infos du jour avant le déplacement de Paris à Nantes dimanche soir. Neymar ne s'est pas entraîné aujourd'hui. Il est resté aux soins, tout comme Thiago Silva et Thiago Motta. Javier Pastore, lui, s'est entraîné à part, même punition, qu'Edinson Cavani. Suite du feuilleton des retardataires au Paris Saint-Germain. Alors, dans l'épisode 23, hier, Javier Pastore répondait à Thiago Silva, qui affirmait dans l'épisode 22 que l'Argentin voulait partir. Bref, la zizanie dans le vestiaire. Aujourd'hui, dans l'épisode 24, le patron, pas le grand patron, hein, le patron, Entero Henrique, directeur sportif, a envoyé une note aux différentes rédactions de sport, dont la nôtre, pour expliquer la position du Paris Saint-Germain sur l'affaire Pastore. Cavani, je cite, « Suite aux nombreux commentaires concernant le retour en retard de deux de nos joueurs, je tiens à affirmer, en tant que directeur sportif du Paris Saint-Germain, que notre volonté a été et sera toujours de régler cette situation en interne, sans en étaler publiquement tous les détails. Dans ce contexte, je suis pleinement aux côtés de l'entraîneur pour toutes les décisions qui ont été et qui seront prises. » Est-ce que ça vous a convaincu, cette sortie médiatique très rare d'Entero Henrique ?
Écoute, de toute façon, que ça nous ait convaincu ou non, ce qu'il en ressortira dans la plupart des commentaires, c'est que c'était pas convaincant, que c'était pourri et que c'est le bordel au PSG. De toute façon, aujourd'hui, clairement, et je vais totalement assumer ce que je dis, et je me fous bien de savoir et de penser ou de constater que certains vont dire « Ah, il dit ça, il défend le PSG », alors
non,
il suffit historiquement de constater qu'à chaque fois qu'il y a eu un vrai problème, je l'ai toujours dit. Mm-hmm. Et alors là, il faudrait vraiment ne jamais avoir écouté l'after de sa vie pour ne pas voir que j'ai jamais épargné personne. Mais là, en l'occurrence, c'est clair et net. Il y a de toute façon une volonté de raconter des histoires, d'en faire des caisses, quand c'est pas carrément une volonté de vraiment voir et de souhaiter qu'il y ait le bordel et que ça explose. Donc, ce qui s'est passé, c'est que dans un premier temps, le PSG n'a pas voulu qu'on lui dicte sa conduite sur l'affaire. D'un point de vue de la com, ils se trompent. Parce que finalement, au bout d'un moment, ils s'aperçoivent, alors qu'ils avaient prévu de pas parler, d'ailleurs, Antero le dit dans son texte,
il parle après,
de régler ça. Eh ben, il a vu que, après que l'équipe ait foutu, en gros, tout ça sur la place publique et que ça a agité toutes les rédactions, il s'est dit, bon, on est obligé. Alors qu'il avait prévu de pas le faire. Je pense que si il avait fait dès le début, ça aurait été plus positif. Mmh. Encore que, j'en reviens à ce que je disais initialement, qu'il parle pas, qu'il le dise, de toute façon, on dira que c'est de la merde. Mmh. Et on dira qu'Antero ne gère rien, que rien n'est géré et que c'est le bordel. C'est comme ça qu'on a envie de voir les choses et c'est comme ça qu'on a envie de raconter l'histoire du PSG dans 90% des médias. Sans chercher réellement à comprendre et à savoir ce qui se passe. Je disais hier dans Team du Gap que quand j'aurai absolument toutes les pièces du puzzle, je donnerai mon avis sur cette situation. Sur les billes et sur les pièces que je commence à rassembler, qu'il y a eu petite tension et qu'effectivement certaines phrases n'aient pas plu, c'est vrai. Maintenant, je pense que franchement, ça va pas plus loin que ça. Qu'il y a absolument pas la zizanie comme
du
ça
tout.
A été
il
dit.
Il se passe rien du tout.
Mais rien du tout.
Et que
le
Sud-Américain arrive en retard, ça c'est tout le temps fait.
Qu'il y ait les fameux clans, on le sait,
oui,
depuis le début de la saison. Je n'ai jamais nié ça, on le sait. Les Brésiliens aiment bien être entre eux.
Il y a des clans.
Exact.
Hein.
Cavani est un solitaire qui aime bien être seul parce qu'à la limite, il fait un clan avec lui tout seul.
Ouais.
un peu comme Di Maria d'ailleurs, qui est un mec un peu seul aussi. Bon, avant il y avait un clan un peu français l'année dernière avec Matuidi, Rabiot. Bon, il est plus très costaud ce clan, on va dire Rabiot, Areola, Courza.
C'est le clan des Brésiliens qui s'est renforcé.
Voilà, c'est le clan des Brésiliens qui est probablement effectivement dominateur.
Voilà.
Mais si on a envie de raconter que ça va péter, attention, ça va péter, oui, ça va péter, on peut continuer à le faire et je sais qu'on va continuer parce qu'il n'y a pas assez d'actu dans le foot, parce que le PSG, ça fait vendre, que ça fait plus vendre si on dit que c'est la merde. Donc ça continuera. Donc, est-ce qu'il m'a convaincu en Théo Henrique? Bah, à la limite, peu importe.
Il aurait un 10, c'était pareil.
Et vous avez parce que le truc, ils veulent le régler en interne. Daniel, ils l'ont réglé d'ailleurs.
Mais tu as vu notre question, c'est Enter Henrique, vous a-t-il convaincu? On ne reparle pas des deux retardataires sud-américains.
Jean-Christophe, il y a sanction. Hier, on avait Bruno Satin, qui est quand même un agent qui...
Il y a l'habitude qu'il connaît.
Voilà, connaît un peu le foot.
Il a
clairement expliqué, avec des mots très précis que nous on n'emploie pas parce que c'est vraiment des mots du milieu. Et effectivement, il y a sanction, ce sera tant et pour telle raison. Et voilà, on l'a dit clairement. Voilà. Oui. Maintenant, les gens attendaient que ce soit le PSG qui le dise. En fait, pour certains, le souhait c'était quand ils reviennent. Ouais, Cavani, c'est méchant, il s'est mal comporté, et pas Sorochi, et ils auront tant machin,
pas.
En fait, il fallait qu'Antero, il arrive, il prenne les burnes, là, tu vois, et puis il les foute sur la table, devant la tronche des journalistes, il dit, ouais, mais burnes, là, où elles sont bien grosses, hein, elles sont bien grosses. Alors, lui, il va prendre. Voilà.
Daniel, on peut aussi attendre d'un directeur sportif, parce que c'est souvent le reproche qui a été fait au Paris Saint-Germain, que le directeur sportif, en tout cas, au moment où il n'y en avait pas, qu'il n'y avait personne pour taper du poing sur la table, on peut quand même regretter qu'à un moment, Théo Henrique, qu'on n'entend pas beaucoup, affirme son autorité.
C'est ce que j'ai dit. Je pense que le calcul a été mauvais. Je suis absolument d'accord avec toi. Le calcul a été mauvais parce qu'il s'est dit, on ne va pas se faire dicter notre conduite par les médias. Or, les médias ont tellement secoué qu'il a été obligé
de venir.
Donc, il est venu après. Et ça, c'est une erreur. C'est vrai, il aurait dû anticiper et venir. Voilà. Ça, c'est vrai, c'est une erreur.
Ce qui est bien, c'est qu'on voulait que Nasser n'intervienne pas. Nasser n'a pas intervenu.
Oui.
Ça, d'une, c'est une bonne chose.
Oui.
Et de deux, que ça soit le coach qui intervient et ça vienne du coach. Et c'est ce qu'a dit Henrique.
Les deux ont parlé. Emery aussi a parlé aujourd'hui.
Non, mais ce qui est bien, c'est que Henrique dit je suis ce que le coach a décidé. Donc ça vient du coach. Donc c'est une bonne chose.
C'est ce qu'il dit. Et je répète cette phrase. Je suis pleinement aux côtés de l'entraîneur pour toutes les décisions qui ont été et qui seront prises.
Mais voilà.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il donne aussi quelque part. J'essaie pas de surinterpréter, mais il donne le pouvoir à Unai Emery avec cette phrase.
Ben exactement. En disant c'est venu du coach. Ben voilà, c'est très bien.
Okay.
Et normalement, ça doit venir que du coach.
Aurélien nous appelle au 32-16, supporter du Paris Saint-Germain. Salut Aurélien.
Bonjour tout le monde.
Salut Aurélien.
Alors,
Salut.
Quel est ton avis sur cette question? Est-ce qu'il t'a convaincu avec ses propos et sa sortie?
Alors moi, je me pose déjà plusieurs questions. Déjà, Henrique soutient Emery, mais sur ce sujet. Il a bien dit, je soutiens un sujet. Donc c'est-à-dire que tous les autres sujets depuis le début de saison où ils ne sont pas d'accord, on ne sait pas s'il le soutient.
Bon là c'est chipoté un peu mais
on okay, parle pas de ce sujet hein.
Bah, voilà, non mais on est bien d'accord. Après
les autres.
Oui, mais c'est quand même, ça veut dire qu'il soutient peut-être pas d'une manière générale. Après, honnêtement, dans les plus grosses entreprises, dans les plus gros clubs, ça se gère en interne. Ils ont raison. Ils font leur popote. Ils ont tout à fait raison.
Oui, Aurélien, la différence quand même, je comprends ce que tu dis. Et la différence, c'est que c'est le PSG, le club dont on parle le plus en France, et que c'est pas comme un club de foot, ça ressemble beaucoup à une entreprise, mais c'est quand même pas une entreprise totalement comme les autres. Et on en revient à ce que je disais avant. Effectivement, ils ont voulu faire tout ça en interne, sans se laisser dicter la conduite par les médias, mais tu vois bien qu'à l'arrivée, ça a pas collé. Ça a pas collé. Alors je sais pas si ça servira. Je sais pas si ça servira à quelque chose parce que quoi qu'il en soit, demain tu peux être sûr qu'on dira pas mise au point Antero, mise au point. Non, on dira Antero est sorti trop tard, ce qui est vrai. Antero, on n'y croit pas. Antero nous a pas convaincus. Ça continue d'être le bordel. Moi, je pense qu'il aurait dû le faire avant. Il aurait dû sortir du bois tout de suite.
Dès le début.
Et parler immédiatement. Voilà. Ça, sanction, je reconnais que ça. Surtout qu'on attendait du nouveau directeur
sanction,
sportif.
Point à la ligne.
Donc
et
ça,
pas de Nasser.
Voilà, ça c'est une vraie erreur à souligner.
Alors, pour finir et pour compléter, il sort, il vous fait un communiqué à tout le monde, donc très épuré, avec des coins lissés, c'est plus des coins, c'est des ronds. Au final, dans la semaine, on a Thiago Silva qui crache, donc qui gueule sur Cavani et Pastore. Et d'un autre côté, on a Rabiot qui soutient Pastore et Cavani, et il y a Meunier qui grogne parce que le foot n'était pas bon. Donc je veux dire, il fait une déclaration pour essayer de calmer tout le monde, pour faire plaisir à la presse, et ça calme personne. Et d'un autre côté, il y a des joueurs qui se tirent dans les pattes avec un clan des Brésiliens.
Ah,
avec,
ils se tirent pas, Abraham, je sais pas.
Non, mais pour rebondir sur ce que vient de dire Aurélien, c'est vrai qu'à un moment donné, est-ce que Thiago Silva n'a pas fait sa sortie?
Pas du tout.
Justement parce que personne ne la faisait au Paris Saint-Germain publiquement.
Est-ce qu'on lui a pas demandé de dire au moins un petit mot là-dessus? Ça, à la rigueur, c'est possible. Et de dire qu'il n'est pas content que les joueurs arrivent en retard.
Peut-être que le
capitaine... Alors que t'es un grand club.
Non, mais je veux pas se mire, mais peut-être que le capitaine s'est dit, écoutez, il y a personne qui parle, moi je vais dire que c'est pas bien.
Je pense pas que ça soit ça.
On peut pas dire que c'était une grande réussite, la sortie de Thiago Silva. Ça a pas vraiment été une grande réussite.
Non, non, la différence.
Je sais pas si l'initiative est perso ou pas, mais enfin bon.
Non, il y a moi je pense qu'il y a une très bonne ambiance et ça se voit, de toute façon, quand on les voit s'entraîner et tout. Et les résultats vont avec. Maintenant, on va toujours chercher. Et c'est vrai, concernant le PSG, ça sera tout le temps comme ça. On va toujours chercher ce qui ne va pas, même quand tout va bien.
Mais ça, à la limite, Ali, et ça, à la limite, et pour en avoir parlé pendant des années avec les gens au PSG, avant même les Qataris et même encore là.
Oui,
mais,
déjà avant. Hein.
Mais même avant. C'est un club qui a progressé dans plein de domaines. Mais s'il y a une chose que je n'ai jamais vu quelqu'un s'occuper de la com au PSG et comprendre ce qu'était réellement ce club. Et là-dessus, il y a zéro progrès. Ça, là-dessus, la sortie de Thiago Silva, suivie de celle de d'Antero et Emery, qui disent, en gros, Emery, moi, je m'occupe du terrain, l'autre, bon, ben, moi, je m'occupe de ça.
Voilà.
On finit par être d'accord et tout. Mais à chaque fois qu'il y a eu des problèmes de com, tu peux tout reprendre les épisodes de l'ère Qatari, mais même
avant,
on en parle d'avant et tout. La com, c'est un truc qui n'est pas du tout et qui n'a jamais été maîtrisé dans ce club. C'est comme si on voulait pas, ils ne voulaient pas voir que de toute façon, ils ne seraient pas soutenus par le pays tout entier. Alors, ça les fait tomber dans des formes de parano parfois. Il n'y a personne pour leur expliquer vraiment ce que représente le PSG et ce qu'il ne représente pas aux yeux des gens dans ce pays. Si les mecs comprennent déjà ça, s'ils élaborent réellement une communication en fonction de ça, en anticipant les coups, en prévoyant que de toute façon que tu sortes, que tu parles ou pas, de toute façon ce sera interprété d'abord de façon négative.
Toujours.
Donne les interviews, donne à manger. Mmh. Eux, ce qu'ils ont fait, c'est se braquer. Tu ne te braques jamais dans un pays où il n'y a qu'un seul quotidien. Tu peux le faire dans d'autres pays si t'en as plusieurs. Parce que tu vas donner un peu à manger là, et si l'autre fait la gueule, s'il te casse, de toute façon, t'auras l'autre à qui t'a donné à manger qui dira du bien de toi. En France, il n'y en a qu'un.
Mais je veux pas défendre mon ancienne crêperie, mais c'est pas de la faute de l'équipe non plus.
Mais qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Ce que je t'explique, moi, c'est que tu dois prendre la mesure de ça. Tu dois le savoir que c'est comme ça.
C'est vrai.
Et parce que, comme tu sais que c'est comme ça, tu dois anticiper. Moi, je dis pas que c'est de leur faute. Eux, ils font leur taf. Ils ont envie de le faire de cette façon. Eh ben, ils le font de cette façon s'ils ont envie. Que ce soit vrai, pas vrai, bien, pas bien, on fait tous ce métier le mieux qu'on ait envie de le faire, le mieux possible. De l'autre côté de la barrière, tu dois connaître parfaitement le paysage médiatique et ça. Et en France, il se trouve que t'en as qu'un de journal. Si tu te mets dans la tête d'être en guerre contre lui, en ne donnant jamais rien à bouffer. Ils se sont braqués contre eux. De toute façon, la guerre, elle dure depuis l'été dernier quand Nasser a refusé l'interview. Les mecs au journal se sont dit, de toute façon, c'est guerre. Mais c'est pas productif du tout. Tu manges les zizanis, tu manges les trucs et après tu sors, t'es obligé de venir que basse, envoyer un communiqué à toutes les rédactions.
Donc,
c'est bidon. Bidons là-dessus, PSG. C'est vrai.
Un message de la candidature de Daniel Riolo
pour faire la com du Paris Saint-Germain.
Exactement.
Eh bien, on propose cette idée dans l'after. Tu as raison. Il est 23h19.
Nasser.
Daniel Riolo va-t-il aller au Paris Saint-Germain?
Non, franchement, non. C'est. Non. En plus, ça.
Ah non, ça serait un super boulot pour le PSG. Tu le connais par cœur.
Bah non, parce que je t'expliquerai. Mais non.
On remercie Aurélien qui nous a appelé au 32-16.
Je veux vraiment pas aller me mêler de ça.
Je vous rappelle ce résultat. L'équipe de France de handball a parfaitement débuté son championnat d'Europe avec cette victoire face à la Norvège, 32-31. Je vous propose d'écouter le sélectionneur Didier Dinard.
Aujourd'hui, c'était le combat. De ce niveau, de cet acabit, ça a été. On a vu des guerriers aujourd'hui, une équipe solidaire à toute épreuve, puisqu'on a été mené de 3 buts. Il y a des gardiens qui ont été présents, donc à l'arrivée, je pense que l'équipe a fait vraiment un résultat cohérent et la continuité de ce qu'on pouvait espérer, et je ne peux que les féliciter.
Victoire 32-31. Vraiment sur le fil, le prochain match de l'équipe de France, ce sera évidemment à suivre sur RMC. C'est dimanche face à l'Autriche. Nous, on se retrouve dans quelques instants pour vous parler du mercato. Yann Mvila a signé à Saint-Etienne. Oui, il a passé sa visite médicale. Pas deux recalés à Saint-Etienne dans la même semaine quand même. Et puis, Neymar va-t-il aller au Real? Attention, la presse madrilène. On en parle dans l'after sur RMC. À tout de suite.
RMC, le super football show, Jean-Christophe Drouet.
Allez, c'est l'after foot sur RMC. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit, toujours avec Daniel Riolo et Ali Benarbia pour parler de l'actualité du football avec cette victoire tout à l'heure, Guingampès face à Strasbourg. On en a parlé, on a également parlé du Paris Saint-Germain. Et tout de suite, si vous le voulez bien, ça vous intéresse le mercato?
Ouais, c'est, t'as de la vraie news là, parce que cette semaine on a plutôt eu des trucs.
Mvila.
Alors, ça
m'intéresse.
Attention, ça va être pas mal parce que nous sommes, vous le savez, le 12 janvier. Il reste donc 19 jours à parler du mercato. Dans la besace aujourd'hui, on a quelque chose qui est signé. C'est assez rare pour le souligner dès le 12 janvier. C'est Yann Mvila à Saint-Etienne. C'est fait. Les Verts ont officialisé sa venue en début de soirée. L'ancien Rennais a été libéré de son contrat par le Rubin Kazan qui ne le payait plus depuis 4 mois. Il a signé chez les Verts pour 18 mois, un an et demi. Est-ce que vous êtes convaincu?
Il a signé pour 18, a dit, je m'attendais à 18 millions venant des Verts. 18 mois.
Oui.
Ah. Il sera moins payé que son salaire virtuel à Kazan, mais comme l'oseille tombait pas, finalement il sera mieux payé à Saint-Etienne.
Est-ce qu'il a reçu la lettre de la FIFA ou c'est le Rubin Kazan qui l'a?
Non, et le Rubin Kazan l'a libéré.
Bizarre ça.
Non, il n'a pas eu besoin de passer par la FIFA, on l'a évoqué un temps, il n'a pas eu
donc
besoin de
le faire. Donc il a dit bye-bye aux 4 mois.
Exactement.
Ah ben voilà.
Et il est parti donc, Yann Mvila. Mais non, mais j'attendais que tu me poses la question pour le dire. Ah. Tu comprends? Vous en pensez quoi alors de ce transfert?
Jean-Louis Gasset adore ce joueur apparemment.
Oui, parce qu'il l'avait connu avec les Bleus à l'époque. C'était un des joueurs clés de l'équipe de France de blanc. Non, mais qu'il soit content de l'avoir, ok, mais c'était en 2012, hein. Maintenant, en 2018.
On retrouve Saint-Etienne qui recrute encore un milieu relayeur. Ouais,
Moi, je n'ai pas. Ouais, alors lui. De ce qu'on savait de lui il y a des années, c'était mieux que ce qu'ils ont quand même. C'est un mec qui était capable de faire une passe.
Mais là,
le problème, c'est qu'on ne sait pas du tout comment il est.
Exactement.
Moi, j'en sais rien. Moi, je ne sais pas. Moi, comment tu veux savoir dans quelle forme il est, le gars? Je sais pas. Moi.
On va attendre de voir.
Je sais pas, le gars. Lance un appel. Le dernier mec qui a vu un match à Mvila en entier.
Alors, si vous avez
même
vu
une demi-heure, même je dis,
si vous avez
c'est
vu,
beaucoup, même
si
une demi-heure, aperçu, une demi-heure. De...
Si vous avez aperçu une touche,
oui exactement, voilà, juste ça.
Appelez-nous au 32-16, on sera ravis évidemment d'en parler.
Non, une touche technique, c'est ce que tu veux dire, touche.
Non, je parlais d'une vraie touche.
Même non, une touche, il peut pas. Les latéraux qui font les touches.
Il les fait pas.
On l'a pas vu sur un terrain depuis longtemps. Vous avez bien raison. Mais dans quel état d'esprit il est, je peux vous le dire parce que.
Il l'a dit.
Bah oui, on a sa première réaction.
J'imagine qu'il a envie de jouer, qu'il est motivé quand même.
Je suis très heureux de revenir en France et en Ligue 1 avec un coach, Jean-Louis Gasset, vous en avez parlé, que je connais particulièrement bien.
Oui.
J'espère réussir de belles choses avec Saint-Etienne. Mes objectifs sont simplement de jouer le maximum de matchs, ça c'est pas bon quand on dit ça, hein. De faire de bonnes prestations et d'aider l'équipe et réaliser une belle deuxième partie de saison.
Ah, par contre, maximum de matchs, tu sais, les contrats Saint-Etienne, c'est au match.
Oui.
Tu penses que déjà dans la décla il avait ça en tête?
Plus il y a eu de matchs et plus le salaire.
Diaby avait ça un moment avec l'Olympique de Marseille. C'est pour ça que je dis que ça sent pas.
Il ressemble pas de plus en plus à Michael Siani. Je trouve qu'il y a un peu la tronche de Siani.
Ah ouais, au niveau de la tête.
Ouais, on fera le jeu des ressemblances un petit peu plus tard.
Dans le jeu, c'est un petit peu le style de Peter Luxem. Tu vois, un joueur que j'aimais bien au milieu terrain, et Mvila quand il a fait ses débuts là, c'était un petit peu pas mal.
Alors ça peut être aussi le même profil, hein, c'est-à-dire qu'il avait beaucoup de potentiel et qu'il a rien fait, quoi.
Ouais, c'est dommage parce que lui il avait un gros potentiel.
A-t-il vu jouer Mvila il y a pas longtemps? On va lui poser la question. C'est Sébastien qui nous appelle au 32-16. Salut Sébastien.
Salut Sébastien.
Salut, bonsoir à tous.
Supporter des Verts, est-ce que tu l'as vu jouer ou pas récemment?
Il s'est acheté des matchs en replay de Kazan pour voir.
Non, moi je pense qu'il a plus vu Romé jouer que Mvila.
Qui?
J'ai plus vu Romé sur un vélo en ce moment.
Ouais, moi je crois.
Tu en penses quoi de ce transfert alors?
Bah, on va dire que au premier abord, plutôt content. Vu notre situation actuelle, je pense qu'un renfort comme Mvila, ça, on peut pas s'en passer, on va dire. Après, je rejoins un peu Daniel sur la question. On connaissait Mvila il y a quelques années. Après, aujourd'hui, Mvila, qu'est-ce que ça vaut réellement sur un terrain? on sait pas trop. Moi, je m'interroge surtout. C'est après, je sais pas du tout s'il a joué à Kazan ou pas. J'espère que c'est un joueur qui physiquement est prêt. On recrute pas un joueur pour qu'au final il soit à court de prépa physique, on va dire,
et qu'il
passe un mois et demi de préparation physique pour se remettre bien, quoi. Parce qu'au final, après, c'est pas vraiment un renfort.
Normalement, il est prêt pour la fin de saison.
Ah bah c'est impeccable.
mais est-ce que tu es raccord avec le recrutement des dirigeants ou tu penses qu'il fallait recruter ailleurs surtout?
Un poste précis?
Non, ce poste-là, ils n'avaient pas de joueurs de ballon capables d'organiser un petit peu le jeu. Non, ce qui ressort de ça, c'est que les mecs font un pari. Et tu sais, ça peut ressembler quelque part à l'époque au pari qu'avait fait l'OM avec Diarra. Ils avaient fait double pari, l'OM. Ils avaient fait Diarra, Diaby. Il y en a un, ça n'a pas marché. Et l'autre, sur 6 mois, ça avait très bien marché.
Diarra était très bien.
Mais le problème, c'est toujours le même. C'est qu'en France, on a 0 cellule de recrutement et 0 mec qui savent qui prendre. Donc, quand les gars, ils sont en carafe et ils savent plus quoi faire.
Ils reviennent en France.
Est-ce qu'on n'a pas, alors, tu sais, ils consultent, hop. Bon, alors, les Français partis à l'étranger en situation d'échec. Si on essayait de les faire revenir. Mais c'est ça. Les mecs n'ont aucune idée, ils ne savent pas quoi faire.
Trop cher, ils disent, ah là, c'est pas cher.
Ils savent pas quoi faire. Donc, ils vont chercher les mecs à qui ils promettent des contrats alambiqués parce qu'ailleurs, ils touchaient plus, mais il se trouve que là, en l'occurrence, ils touchaient plus. Donc, tu reviens. On sait pas bien la forme dans laquelle t'es. Bon, il y a un pari de temps en temps, Diarra, ça avait marché, mais pas bon, si ça avait marché, mais pas toute la saison, mais on va dire globalement très positif quand même. Mais tu peux pas quand tu diriges un club professionnel comme ça. Déjà, tu peux pas être à ce point, mais en misère totale 5 mois après le début de la saison, alors que t'avais pas du tout prévu à te retrouver à jouer le maintien. T'as viré ton entraîneur, t'as raté ton recrutement.
Non, t'as changé d'entraîneur et tu rechanges encore d'entraîneur.
Oui. Et là, ils nous font un recrutement et puis des mecs importants. Tu sais, c'est pas un truc d'ajustement. On a besoin d'un mec qui fait des passes, un mec important, tu vois. Et on prend un mec qu'on n'a pas vu jouer depuis 6 ans.
Puis, Eric,
bon, ben, si ça marche, ok, c'est du pari. Toi, tu parlais de poker tout à l'heure, là, c'est du craps, là.
Mais c'est vrai
là,
que
il y a pas, tu sais, tu jettes les dés et puis tu
recrutes. C'est vrai que le recrutement, on a l'impression.
Il y a de la stratégie dans le craps ou pas?
Aucune idée.
Si, c'est la façon de jeter les.
Non, il doit y avoir un truc sur les dés, je sais pas. Mais...
En tout cas, on fera une émission spéciale là-dessus un peu plus tard, promis. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu l'as dit, on a l'impression qu'au niveau du recrutement, on tourne un peu en rond, mais c'était un peu la même façon de penser que les entraîneurs. Dès qu'il y a un entraîneur de Ligue 1 qui partait, on se dit, bon, il y a qui est libre, on prenait un peu toujours les mêmes. Mais il y a
façon
même Villa.
Façon maintien. Ça va pas, on avait les pompiers. En France, on a beaucoup de pompiers. Ça, c'est vrai.
Mais Sébastien, est-ce que tu y crois et est-ce que tu penses que Yanem Villa peut quand même t'apporter, vu son expérience? Est-ce qu'au moins ça te réjouit? C'est un peu sexy pour toi?
Bah, disons que c'est le nom le plus ronflant qu'on ait recruté depuis 5 ans, on va dire.
Mais qu'est-ce qu'il a comme t'as parlé toi d'expérience, qu'est-ce qu'il a comme
ronflant parce qu'il a joué en équipe de France, parce que ça fait quand même 6 ans qu'il a pas ronflé, Bastien. C'est Sébastien.
Dans quel club a joué M. Villa en fait?
Robin Kazan et Rennes. Il n'y a pas eu un truc entre les deux?
Il était pas là en Angleterre.
Il a été en Angleterre aussi.
Je sais pas s'il est parti à Stoke ou Sunderland en prêt.
Franchement, enfin, ça n'a pas marqué les esprits, quoi.
Non, c'est pour ça.
Donc, en fait, il a simplement pour lui le potentiel du joueur qui a fréquenté l'équipe de France époque marinière. Et match en Bosnie où il est au milieu avec Diaby. Commentaire de Frédéric Antonetti, s'il va au Barça, il prend la place de Busquets en 2 semaines.
Et la passe Ligue des Champions. Là,
voilà.
À chaque fois qu'on parle d'M. Villa, on dit
et
toujours la même
phrase, tu vois, parce que allez, tu vois, c'est pour dire malgré tout qu'on progresse quand même en Ligue 1, parce qu'en 2012 on disait le mec il a la passe Ligue des Champions. Genre, bon, normalement.
C'est quoi la passe Ligue?
C'est une passe vers l'avant. Tu sais pas? Non, mais parce qu'à l'époque personne ne savait en faire en Ligue 1, donc c'est la preuve qu'on a avancé quand même. C'est qu'aujourd'hui il y en a un peu plus qui savent la faire, la passe.
C'était la passe possession.
Voilà, mais on disait, t'imagines où on en était, quoi, quand on dit bon, on n'a pas vachement progressé, mais bon. Il a la passe Ligue des Champions, c'est ouf. Moi je trouve ça dingue. Ça a ajouté au commentaire d'Antonetti, il prend la place de Busquets quand il veut. C'était les grandes années de la Ligue 1, je trouve.
Mais à Sunderland, son prêt, il avait bien marché, hein. C'est en première ligue, il avait fait forte impression. Merci beaucoup Sébastien, tu n'as pas beaucoup parlé donc j'ai un petit cadeau pour toi. On va t'offrir 2 places de cinéma. Non, on va pas lui offrir Kevin Bigard. En plus, on sait pas dans quel état il est. Non, non, on va lui offrir deux places de cinéma pour le film avec Matt Damon. Je sais pas si tu en as entendu parler. C'est ouais, Downsizing, petit, la grande ouais. comédie avec un mini Matt Damon. Deux places pour toi. T'es content?
Eh ben, impeccable. Écoute, nickel. Ben
voilà. Et il y a des places à gagner aussi sur notre compte Twitter de l'After Food. Vous pouvez y aller dès maintenant. Une autre info transfert à vous donner. Alors là, peut-être à prendre avec beaucoup de pincettes. Hein. Neymar, dans la rubrique Mercato, selon le quotidien madrilène Marca, le Real Madrid rêve toujours d'avoir le Brésilien. Le titre en une est sans équivoque. Con Neymar en la cabeza. Ça veut dire quoi?
Avec Neymar dans la tête.
Voilà, vous êtes bilingue. Marca annonce une offensive cet été qui pourrait se chiffrer à 400 millions d'euros.
Bah donc on est entré, Marca, journal qui soutient le Real Madrid, est entré dans le match de Ligue des Champions.
Voilà déjà.
Et on est dans le classique tentative de déstabilisation par voie de presse interposée.
T'as vu Emery aujourd'hui ou pas?
Un grand classique.
Est-ce que t'as vu Unai Emery, non? Tu l'as eu par texto, non? Vous n'êtes pas appelé? Non, parce qu'au niveau de la com du PSG, c'est vrai que tu serais pas mal, Daniel.
Pourquoi il a dit ça?
Tentative de déstabilisation. Ah oui. Ouais,
c'est classique. Non, c'est calculé. Écoutez-le. Ce qui fait Daniel, il est en train de se positionner.
Mais oui, on est bien d'accord. Unai Emery.
Les joueurs sont intelligents, aussi le club il a plus d'expérience, et aussi j'ai expérience aussi, je sais qu'à l'extérieur, il peut déstabiliser, mais quelqu'un intéresse contre nous. Par exemple, aujourd'hui, il lit le premier journal des sportifs d'Espagne, c'est le titulaire, c'est que Neymar va au Real Madrid. Mais c'est chose que n'est pas perturbé à nous. Nous sommes aussi à les joueurs, aussi à les clubs, aussi à les staff, à les coachs, à les joueurs. Nous savons bien qui est notre chemin, nous savons bien qui va à l'extérieur, nous savons bien qui veut déstabiliser, mais nous sommes forts.
Tu le dis mieux, Daniel, mais on a bien compris.
Par contre, quand on l'a vu suer du front et répéter trois fois la chose, il n'a pas l'air d'être déstabilisé. Il n'a rien qu'à parler. Par contre, il n'est pas déstabilisé. De jouer,
oui, vous pouvez
de jouer
voir
contre
le Real
et de répéter les mêmes phrases du journal espagnol.
Si vous êtes à la radio, vous n'avez pas vu Unai Emery, mais sur BFM Sport, vous pouvez suivre l'after. Et là, vous avez vu Unai Emery en conférence de presse. Alors, j'ai bien compris, on ne va pas trop évoquer ce transfert parce que tentative de déstabilisation. Mais autre chose sur Neymar, le Brésilien Ronaldo a parlé de l'autre Brésilien. Neymar, interrogé par Zico sur la chaîne YouTube, pour lui, la star du PSG n'a pas fait le bon choix cet été.
A fait marche arrière.
Je cite, il est maintenant au PSG, mais je pense que sa décision est sportivement un pas en arrière. Ouais, tu as raison, Ali. Vous êtes à Barcelone, là il va au Paris Saint-Germain, mais ce sont des défis que chacun se fixe. Moi aussi, à mon époque, j'ai joué au Barça et je suis parti à l'Inter Milan, mais le championnat italien était beaucoup plus compétitif. Il a raison ou pas?
C'est une pensée, ça, de Ronaldo. Pourquoi? Parce que quand tu as fait le Barça, le Real et que tu n'as pas fait le PSG, pour lui, il reste encore dans ce PSG qu'il a connu avant. Le PSG de maintenant fait partie des 4-5 meilleures équipes et c'est un petit peu, on va dire, le club à la mode en ce moment. On parle du Bayern, mais on parle un peu moins du Bayern. Les équipes qui restent un petit peu, allez, on va dire, en lumière sont Barcelone et Real Madrid, c'est-à-dire que même les clubs anglais...
Bah, c'est les deux clubs les plus populaires au monde, donc forcément c'est ceux dont les mecs parlent. Après, que le PSG soit derrière ces clubs-là, c'est une évidence.
Même Manchester City a dit oui, mais c'est pas un rêve d'aller jouer à Manchester City. Avant c'était un peu Manchester United, voire Arsenal, mais même des clubs anglais, on n'en parle pas. Ça reste toujours par contre le Barça et le Real, et à côté, il y a un club qui est en train de prendre une place, même pour pratiquement devant le Bayern, c'est le Paris Saint-Germain.
Ok, voilà
donc,
ce qu'on pouvait dire sur cette sortie de...
en ce moment.
Ok, sur cette sortie de Ronaldo, j'avais d'autres choses, point de vue mercato, je sens que ça va pas vous plaire.
Monsieur.
Et là, tente le coup quand même.
Ouais. Non, je préfère parler de la réforme de la Ligue des Champions. Tu préfères, Daniel?
Il faut pas que ça fait une semaine, il faut pas que je me gourre.
Tu vas voir, Daniel. Ce soir, on avait envie de revenir sur cette histoire de réforme de la Ligue des Champions, et je vais essayer d'être clair. Vous êtes prêts, messieurs? Initialement, cette réforme votée en août 2016, qui sera mise en application à partir de la saison prochaine, désavantageait les clubs français. Seulement 2 qualifiés directement, plus un barragiste, contre 4 qualifiés directement pour l'Espagne, l'Angleterre, l'Italie et l'Allemagne. Oui, tout ça à cause de notre indice UEFA, on est 5e.
Au moment de la négo, attends, à chaque fois j'essaye d'apporter une précision, t'es d'accord, hein? Au moment de la négo, donc, Italie, Angleterre, Allemagne, Espagne réussissent à avoir 4.
4 billets.
4 billets, direct.
Pour aller
donc
voir le
4 x 4, t'as 16. Parfait. Sur 32.
Bien.
tu remplis les cases. Là,
ouais, donc la moitié. Halt.
Et la France arrive avec 2 plus 1.
Aïe.
Voilà.
Mais mardi, SFR Sport, qui s'est procuré le règlement de la Ligue des Champions pour la période 2018-2021, nous a annoncé que le nouveau règlement de l'UEFA prévoyait un accès plus direct à la Ligue des Champions pour le troisième club français de Ligue 1, mais sous condition. Vous me suivez toujours ?
Déjà, il y a un truc qu'on savait. Nouvelle précision.
Mais vas-y, Daniel.
Déjà, on sait pourquoi SFR récupère le calendrier. Ça, on le sait. 2018.
Oui. Non, il y a un truc dans le 2 plus 1 qu'on savait, c'est que pour faire le plus 1, les Français avaient énormément de mal sur les dernières années. Mmh. Tu avais eu Lille contre Copenhague, Monaco qui était passé. Monaco était passé par deux tours. Exactement. L'année où ils sont allés loin. Et les autres fois, les Français passaient pas. Donc ce tour préliminaire, enfin ce barrage, était devenu une vraie galère.
Oui.
Ça ne donnait droit à rien. Le 2 plus 1, là, avant qu'on mette le nez complètement, était un peu plus positif dans le sens où déjà, dans le barrage, tu évitais un club des quatre gros.
Oui.
Puisque ils étaient en 4 direct. Mmh. Donc ça, c'était une demi-bonne nouvelle.
Oui, et puis c'est là que l'on va s'amuser. Hein. Oui. Pour avoir un accès direct, il faut que les clubs qui remportent la Ligue des Champions et la Ligue Europa fassent partie des 4 grands championnats et qu'ils soient eux-mêmes déjà directement qualifiés. Ça va pas du tout.
Je prends un exemple.
Si Manchester City remporte la Ligue des Champions, tout en restant dans les 4 premiers de la première ligue, et que Naples remporte la Ligue Europa en terminant également dans les 4 premiers de la Serie A, eh bien, il y a une 3e place pour
c'est automatique.
Un club français.
Voilà. Pour les Français.
T'as la même chose en disant, en fait, le plus simple, c'est que le vainqueur de la Ligue Europa soit un club
des quatre
grands championnats,
voilà,
ce qui est probable.
Oui.
Et que ce club-là termine dans les 4 de son championnat et aille en Ligue des Champions. Donc, en gros, tu regardes Atlético Madrid, Naples,
c'est le problème,
Borussia Dortmund, il y a le Borussia Dortmund,
peut-être un des quatre du championnat anglais,
il y a Arsenal aussi,
cinquième, c'est ça.
Arsenal, mais il faut qu'il soit dans les quatre en Angleterre.
Voilà,
ils sont hors quatre.
On n'est pas dedans. Le championnat anglais.
Voilà. Donc il y a quand même une probabilité que ça arrive, tu vois. Mm-hmm. Ce sont les équipes favorites là. Donc
et si le PSG va le plus loin.
Dans ce cas-là, tu as l'accès direct. Voilà.
C'est une très bonne nouvelle pour les clubs français. On râlait il y a un an en disant c'est pas possible, on nous en veut.
Les clubs français sont contents. Mm-hmm. Puisqu'il y a cette club, enfin, ça t'encourage à dire en Ligue Europa, c'est bien si c'est l'Atlético, si c'est Naples ou si c'est Dortmund qui la gagne parce que la troisième place est libérée.
C'est bien parce qu'on est français.
Et si c'est Lyon qui gagne la Ligue Europa, monsieur?
Comment ça se passe?
Ça se passe, t'as bossé sans règlement toute la journée.
Directement qualifié en Ligue des Champions.
Oui. Et après, la troisième place?
J'en sais rien.
et la troisième est barragiste.
Alors,
Si c'est Marseille, parce que Lyon serait qualifié directement en Champions League. Et Marseille pourrait jouer le barrage.
En fin de saison, Lyon gagne la Ligue Europa. Lyon y va direct. Dernière journée. Lyon fait exprès de perdre pour que Marseille termine troisième et aille directement. C'est pas bon, monsieur.
Voilà,
c'est possible, ce scénario,
après,
il est possible.
Il joue contre la Poel Nicosie et
Ce scénario, il est possible.
Et ils perdent.
Et voilà comment on s'en sort avec
le football français. Il y a une possibilité que tu en aies quatre.
Pardonnez-moi, juste très rapidement sur cette réforme.
Si Lyon gagne la Ligue Europa et que Marseille fait 3, par exemple.
Ils avaient la chance l'année dernière d'essayer de la gagner.
Daniel, elle n'est pas juste. Parce qu'on est content, là, on vient d'apprendre ça, donc nous, on est foufou. Oui. Mais c'est pas un peu bizarre, cette réforme, quand même?
Bah, en fait, là, c'est le truc de la réforme, c'est juste de savoir comment tu remplis les cases. Donc, t'as 16 équipes, après, tu prends un Portugais, un Turc.
C'est ceux-là qu'il faut éviter.
Ce qu'on n'a pas dit, c'est que il y a la case pour, le vainqueur de la Ligue des Champions.
Oui.
S'il est dans les quatre gros championnats, en fait, tu vas chercher le 11e à l'indice UEFA, c'est un club tchèque qui passe direct. La case vainqueur de la Ligue des Champions, c'est le club tchèque. La case vainqueur en Ligue Europa, elle est pour nous.
Okay.
La case vainqueur en Ligue Europa, elle est pour nous. Mm-hmm. C'est ça qu'il faut retenir.
Mais
en
Daniel,
fait.
Dis-moi, si, je sais pas moi, un club des quatre là gagne la Ligue des Champions mais ne termine pas quatrième, est-ce qu'il rejoue en Ligue des Champions? Non.
Si quoi,
prends
tu
exemple,
dis
Real Madrid, le 10, gagne la Ligue des Champions.
Ils sont hors les quatre places en
cinquième.
Espagne. Eh ben, c'est comme cette année, il y a 5 clubs anglais, parce que c'était ça, parce que Manchester United était hors du top 4.
Mais les copains.
Non, gagne la Ligue des Champions. Attention.
Ah merde, il va m'embrouiller, je sais pas.
Et termine 5e du championnat espagnol. Est-ce qu'il la rejoue, la Ligue des Champions?
Oui, bien sûr, ils sont qualifiés d'office en tant que vainqueur.
C'est sûr ça?
Ah, bah, bien sûr.
Pas sûr. Hein.
Bah, non, en tant que vainqueur, mais si, non, m'embrouillez pas. En tant que vainqueur, il est qualifié d'office.
Bon, sachez
le vainqueur est qualifié d'office.
Sûr, hein.
Oui. On le comprend. 23h43, vous écoutez l'afterfoot, on ne comprend plus rien. Moi, j'ai pas fait des études pour ça. Hein.
Si. Attends, on a compris là. Et déjà, le truc, c'est le vainqueur Ligue Europa qui nous intéresse.
Non, mais je sais.
Ça, c'est notre case.
Posez une autre question.
Non, mais le vainqueur de la Ligue des Champions est qualifié d'office.
C'est sûr.
Oui.
Si vous n'avez pas compris, vous nous appelez au 32-16. Mais la semaine prochaine, quand je serai pas là et que ce sera Gilbert Bribois, merci beaucoup. Et Olivier au 32-16 nous a appelé pour nous dire que Yann Mvilla a joué 18 matchs cette saison.
Oui, j'ai reçu plein de messages. Il les a joués, les matchs. Non, mais moi, je ne sais pas qu'il n'est pas en physique. C'est dans quel état global.
Mais on ne l'a pas vu.
Ce qu'on disait, c'est qu'on ne l'a pas vu. On ne sait pas s'il est bon encore.
Demandez à M. Cazin. Deux buts. Nous, on se retrouve tout de suite pour la suite de l'Afterfoot. Évidemment, nous sommes ensemble jusqu'à minuit. Et attention, Lionel Messi, nous, on pensait qu'il gagnait 40 millions d'euros par an. Bah non, il en gagne 100 millions d'euros par an. Pourquoi ? On vous explique ça dans un instant. À tout de suite.
RMC, le super football show, Jean-Christophe Drouet.
Allez, c'est l'After sur RMC et BFM Sport, toujours en compagnie de Daniel Riolo. Et Ali Benarbia, ensemble, on décrypte l'actualité, on s'en sort. Rassurez-vous, avec la réforme de la Ligue des Champions, on n'en parlera plus d'ici minuit. Là, nous allons parler de Lionel Messi. Alors, 100 millions d'euros bruts par an, ça sort d'où ? Sachez que ce sont les nouveaux revenus de Lionel Messi au FC Barcelone, selon des documents de Football Leaks sortis par Mediapart. Lors de l'officialisation de son nouveau contrat en novembre dernier, il était question d'un nouveau salaire de 40 millions d'euros par an, mais en fait, que nini. Oui, je sais que cette expression ne s'utilise plus depuis 80, mais Messi et le FC Barcelone se sont entendus sur 400 millions d'euros sur 4 ans, soit 100 millions, un peu plus de 100 millions d'euros
brut.
Par an. Brut, oui.
Brut.
C'est le brut qui te choque,
Non, mais parce que, non, mais souvent, les gens parlent de l'argent comme ça, mais c'est bien que les auditeurs écoutent le brut pour savoir exactement ce qui lui reste à notre ami Messi.
Exactement. Ça fait à peu près combien en net ?
Non, franchement, moi, je sais pas.
Quoi, 45, je crois, à peu près, pour 100 en moins.
Oh, je pense que c'est un peu
L'Espagne.
Plus. Ouais, c'est à peu près
moi,
ça.
Franchement, hein, tant mieux pour lui. Mais le seul truc dans cette histoire, c'est de repenser à tout ce que disait Monsieur Tebas et le football espagnol sur le PSG qui faisait des folies, qui donnait beaucoup trop, les salaires de dingue, machin, tout ça. Voilà, bon,
écoute, non, le problème,
après,
c'était par rapport à Ronaldo.
Qu'il en touche 100, 200.
C'est un nœud droit d'image, c'est ça.
Moi, je me suis posé la question sur Ronaldo.
Madrid, droit d'image, et Barcelone, pas droit d'image.
Il va pas piquer une crise, là, Ronaldo ?
L'Oréal, il
bloque.
Si,
il va demander plus.
Il l'a déjà fait, de toute façon.
Ah, ça, s'il lit ça, Ronaldo, c'est.
Non, mais là, il va s'étrangler quand il va avoir 100 millions d'euros.
Mais il aura déjà fait la gueule.
Déjà, il sait que Neymar touche plus que lui. Là,
37 millions d'euros par an, Neymar.
Oh là là, non, mais là, Ronaldo peut pas se porter.
Alors, précise, pour les auditeurs qui écoutent. Attention!
Oui, 37 millions d'euros brut.
Bah, alors, moi, je pense à la dépression de Cristiano Ronaldo. Toi, t'es encore dans ton brut et net.
C'est ça, exactement. Voilà, quelqu'un sur l'humain.
Pense à la
merci,
dépression.
Mais
moi, pense à l'humain.
Pense aux gens qui
savoir
coûtent.
Qu'il y a deux mecs qui touchent plus d'oseille que lui, ça le rend
quand
dingo.
Quand on sait qu'à 37 millions et ce que donne un petit peu un impôt à la France, Neymar, c'est bien.
Mais oui, et attends, Messi a combien de ballons d'or? 5. Ronaldo,
Messi viendra à Paris, alors tu te rends compte?
Oui.
Je crois que...
Il est encore dans l'oseille. Hein. Il ne pense pas à l'humain qui est dépressé. En dépression, Cristiano Ronaldo va mal, Ali. Il va mal. Deux mecs touchent plus d'oseille que lui.
C'est un déséquilibre.
Hein. On va te payer en brut maintenant, Ali Benarbia, si tu le veux bien. Alors, moins bankable.
Je vois rien.
Moins bankable, c'est Bruno Genesio, qui a désormais sa carte de membre de l'After. Alors, je connais vos positions depuis très longtemps sur la vidéo.
En brut. Genesio ?
Non, ça n'a rien à voir.
Qu'est-ce qu'il dit,
Je connais vos positions sur la vidéo, c'est mon petit doigt qui me l'a dit, même si un petit doigt ça parle pas et que cette expression est débile. Parce qu'il y a eu les bugs avec la Gold Light Technologie.
Ouais.
Eh bien, sachez que désormais, il est comme vous. Il est contre la vidéo, Bruno Genesio.
Bruno Genesio est un homme intelligent.
Je vous propose de l'écouter, c'était aujourd'hui en conférence de presse.
Finalement, je me dis que Michel Platini avait certainement raison. Je trouve que ça risque d'en créer plus, mais surtout d'amener plus de polémiques. Et je trouve que ça enlève beaucoup de pouvoir à l'arbitre, je trouve. J'ai trouvé que les arbitres avaient... je vais pas dire qu'ils servent à rien, mais ça enlève beaucoup de poids à l'arbitre, je trouve. Et je trouve que ça dénature un petit peu le match.
Pensez sur la réflexion ou pas du tout? Non, pas du tout, Daniel, pas du tout. Non, c'est toujours contre la vidéo.
Mais j'en reviens pas. Mais Bruno Genesio, tu es fantastique, Bruno. Vraiment. Plus je suis épaté.
Oui, t'as l'air
bravo,
totalement
Pep.
Désemparé.
Bravo, Pep.
Donc c'est quoi
Qu'est-ce que je suis content d'entendre un entraîneur dire ça?
Oui. qu'on laisse un petit peu l'arbitre. Chacun est acteur de ce qu'il fait. Là, on essaye, c'est vrai,
mais cette explication tout à lever, limpide, là. Oh là là,
dénaturé. Je peux vous faire grimper au cocotier?
Oui.
Non, non, parce que c'est quand même le sens de l'histoire, la vidéo. Non, je blague. Ok, on n'en parle plus de la vidéo. En tout cas, sachez, on l'a appris cette semaine, que la Ligue de football professionnel avait suspendu son contrat avec Gaul.
Tu penses que l'histoire a toujours eu raison dans ses progressions et dans son progrès ou pas? Est-ce que tu penses qu'il y a des progrès de l'histoire qui ont été négatifs?
Est-ce que
la vraie question, c'est pas de se demander si, quand on sort cet argument, c'est le sens de l'histoire ou on n'arrête pas le progrès? Est-ce que l'histoire nous montre que forcément, c'est juste?
L'histoire qui a raison.
À ce sujet, je conseillerais un vieux film de 1968. Je conseille pas tous les remakes qui ont été faits, mais juste celui-là, La planète des singes, première version de 68. Revoyez ça, il y a une réflexion sur l'idée de progrès de notre société.
Bon, à la base, moi, c'était de l'humour sur la vidéo, mais je vois que je me suis fait recaler par Daniel Riolo. Non, merci, mon Daniel.
Sais pas quoi faire en rentrant, tu vas te louer le film, tu vas regarder.
Bonne idée.
L'état moderne, Charlie Chaplin.
Une information encore à vous donner au sujet de Lyon. Sachez que Mariano Diaz, qui était déjà forfait et qui avait manqué la rencontre de Coupe de France face à Nancy lors de la victoire de l'OL 3-2, il est toujours forfait pour le match dimanche face à Angers. Il souffre d'une hernie. Et puis l'autre dossier, c'est vrai qu'on en a parlé en début d'émission, c'est une information qui nous vient de l'Olympique de Marseille, qui joue demain face à Rennes à 17h. Jordan Amavi s'est blessé ce matin à l'entraînement, le latéral gauche touché au quadriceps, et d'ores et déjà forfait évidemment pour demain, et il pourrait être absent au moins 3 semaines. Est-ce que Marseille doit absolument recruter un latéral gauche, Ali?
Non, ils ont Bédimo dans la cage, il devrait le sortir de la cage, et ils ont aussi un petit jeune du centre de formation. On parle souvent qu'il n'y a pas de jeune. La preuve, c'est que notre ami Lopez, ils ont dit oui, le centre de formation, ils l'ont remis dans la cage, il a disparu.
Mais il y a Sakai qui peut jouer aussi.
Laissons Sakai à droite, ils ont un arrière droit, c'est déjà pas mal. Ils ont je ne sais pas comment il s'appelle. L'arrière-gauche là, du centre de formation.
Je sais, normalement, c'est un milieu de terrain. Il peut aussi dépanner sur le côté gauche. J'ai aussi perdu son nom, mais on va m'aider.
De toute façon, à quoi ça sert d'avoir un effectif si quand l'arrière-gauche titulaire ne joue pas ou est blessé, que tu me cherches? Voilà, exactement.
Merci beaucoup à Jérôme Thomas.
Voilà. Non, mais de faire jouer les joueurs. Sinon, ça sert de dire on a un effectif. Et sinon, ça sert de dire mais regardez, il n'est pas bon puisqu'il ne joue pas. Et quand on ne joue pas, quand on n'a pas de rythme, on ne peut pas être bon. Il faut avoir des matchs dans les jambes pour être aussi bon qu'un joueur qui a du rythme sur le terrain. Et là, le petit Roca, c'est bien de le faire un petit peu jouer.
C'est vrai, mais déjà, quand Patrice Evra est parti, on se disait, attention, est-ce que l'OM doit recruter un latéral gauche? Et maintenant qu'il n'y a plus Jordan Amavi pour quelques semaines, voire un mois, on se dit quoi, Daniel?
Je me dis, mon vieux, que je ne t'écoute pas parce que je viens d'apprendre que sur la réforme de la Ligue des Champions, je me suis trompé.
Ah, voilà.
S'il peut pas y avoir, il y a aucun scénar avec 4 équipes françaises.
Non, il y en aura pas.
Non, il y a un
scénar
avec
3.
Voilà, si Lyon gagne la Ligue Europa, ils vont en Ligue des Champions et basta.
Et donc?
Et c'est 3 maxi quoi.
Ah, il leur donne pas 4.
Non.
Je pensais pas en reparler d'ici la fin de l'émission, mais au moins, rectification.
Je suis en train de me faire une suée, moi, sur cette histoire. Moi, je ne suis pas sur les règlements.
Bah, dis-moi une chose.
Moi, sur les règlements, ça fait 4 jours que j'essaye de bosser dessus. J'y comprends rien. Tout le monde sait, je comprends rien.
Mais c'est facile si tu as PSG Monaco.
Et encore, heureusement qu'il n'y a pas des poules et tout, parce que
si
sinon.
PSG Monaco et que Lyon gagne l'Europa League et que Marseille tombe 3e, les pauvres.
Voilà.
Eh ben.
Ok. Personne veut parler de Jordan Amavi. Merci beaucoup.
Si, non, mais je l'ai dit tout à l'heure.
Il a été un gros coup.
Méga coup dur pour l'OM. Voilà.
J'avais très envie aussi de parler des 5 matchs de suspension de Jaroslav Plazil, mais c'est pas grave. Je vois que vous voulez parler de la réforme de la Ligue des Champions.
Non, c'est bon, on a fini là. Il faut surtout pas qu'on y revienne.
Il a dû donner des drôles de noms à l'arbitre, notre ami Plazil. Là,
exactement.
Il avait un petit peu les boules.
Bordeaux qui avait terminé la rencontre à 8 et qui s'est fait sortir de la Coupe.
Combien il a pris?
5 matchs.
Ah, quand même.
Pourtant, Plazil,
il rejoue dans un mois.
Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'un joueur peut manquer à Bordeaux?
Pas faux. Malcolm, peut-être, mais...
Oui, Malcolm. Tu te dis, il y a un mec qui n'est pas là, tu dis, merde, il manque.
Il y a Malcolm.
Pour finir l'after, messieurs, nous allons rejoindre une drôle de dame. Aujourd'hui, elle nous vient d'Allemagne. C'est David Lortolari. Salut David.
Allô, Freund. Salut, messieurs. Salut à tous.
Alors, tout le monde t'appelle Lorto, donc tu peux m'appeler J.C. Drou, si tu veux, il n'y aura pas de problème. Ce soir, début de la 18e journée de Bundesliga, avec un choc, le Bayern face au Bayern. Oui. Et le Bayern qui s'est imposé 3-1 avec un but de Franck Ribéry. Alors moi, j'avais une question à te poser toute simple, parce que il y a eu le duo reformé, la Ribéry-Robben. Ça s'est passé comment?
Ça s'est passé plutôt bien. Et pourquoi? C'est sans doute, il faut chercher dans la préparation de cette trêve hivernale, hein, qui est raccourcie en Allemagne, mais qui reste quand même de plusieurs semaines. La préparation, le Bayern est parti au Qatar. Maintenant, c'est une tradition pour les Bavarois pour se refaire une santé psychologique et physique.
On a une précision hôtel de la part d'Ali, d'ailleurs.
Ouais, hôtel Hermitage.
Ok.
Qui est très bon.
Non, mais je voulais dire que la préparation là-bas, que j'ai suivie de très près, a été extrêmement professionnelle. Tout le monde l'a dit. Pas seulement la communication officielle du club. Et ça s'est ressenti ce soir, puisque le Bayern, qui n'a pas tellement tremblé, qui s'est imposé 3-1 après avoir mené 2-0, a gagné 60% de ses duels, donc a imposé aussi une certaine dimension physique à une équipe de Leverkusen qui est plutôt pas mal, hein, qui est quatrième de la Bundesliga.
Oui, mais c'est pas le Bayern Leverkusen d'avant, hein, non plus.
Certes. Hein, c'est vrai, mais il y a une jeunesse, il y a une nouvelle génération qui est intéressante, on aura l'occasion d'y revenir. 4-2-3-1 traditionnel, mais grosse surprise quand même, J.C. Drou ce soir, parce que...
Oui, mais c'est J.C. la surprise.
Il n'y avait pas Lewandowski légèrement blessé, mais Lupinkus avait décidé de ne pas mettre sa doublure, tout fraîchement recruté, Sandro Wagner. Donc on a joué entre guillemets sans attaquant. Il y avait bien Ribéry, il y avait bien Robben, et il y avait Müller. Et ça s'est très bien passé pour Ribéry, qui a marqué un but, qui a été tranchant d'entrée, et qui continue de clamer sa volonté de rester au Bayern le plus longtemps possible.
Donc il nous a mis les quatre, alors Müller, Ribéry, Robben et James Rodriguez.
Oui, exactement.
Ah, c'est pas mal ça.
C'est pas mal, James qui a marqué un bijou de coup franc à la fin du match. Plein axe à 20 mètres, super petit coup franc pied gauche. Donc le Bayern qui a impressionné encore ce soir, qui a 14 points d'avance maintenant en tête de la Bundesliga, mais un match en plus par rapport à ses poursuivants directs.
Tolisso ?
Tolisso est entré à la fin. Donc rien à dire de spécial sur lui puisqu'il a joué 3 minutes, donc c'est pas représentatif.
Non, savoir pourquoi il n'avait pas joué, s'il y avait un problème, s'il était blessé ou quoi, tu vois, je sais pas.
Non, mais alors il y a cette fameuse concurrence, hein, il y a Vidal qui prend quand même beaucoup de place au milieu de terrain lorsqu'il est en forme, il y a Ravi Martinez qui a été replacé.
Il préfère Martinez que Tolisso ?
Ah ben Ravi Martinez, mais il a marqué ce soir, il a ouvert le score, Martinez, c'est un joueur classe, merveilleux.
C'est quand même...
Et j'ai jamais accroché avec lui, c'est bizarre.
Ah quand même.
Un peu lent peut-être, mais
ni en défense, ni au milieu, c'est bizarre. Hein, alors que j'aime Bayern, j'ai revu encore Tolisso.
Un beau joueur de foot, quoi.
Ah, mais j'aime beaucoup. Parce qu'il a pas ta qualité de passe, Alice, pour ça.
Je sais pas, mais j'aime beaucoup Tolisso au Bayern. Il m'a impressionné. Hein. La dernière main, je l'ai vu encore.
David, rapidement, il se passe quoi également en Allemagne? Est-ce que tu as quelques petits biscuits pour nous?
Bah oui, on avait annoncé à RB Leipzig que Naby Keita, il y avait un accord qui était un peu comme ça, au moins oral, qu'il restait jusqu'à la fin de la saison. Liverpool lui fait les yeux doux, Naby Keita pourrait peut-être finalement quitter le RB Leipzig. C'est une information importante qui est relayée ce soir par divers journalistes, aussi bien en Afrique qu'en Europe. Et donc ça, c'est une information importante. Et puis après, il y a la Bundesliga qui reprend enfin après cette longue attente, et on commence à discuter d'une possible prolongation de Lupinkus. Je vais me renseigner au maximum et à l'occasion du prochain after essayer de prendre position sur la suite de la carrière éventuelle de ce jeune homme de 72 ans au Bayern.
Et Neuer, David?
Neuer n'est pas encore de retour, hein, d'ailleurs.
Il n'a toujours pas repris l'entraînement?
Si,
il a repris l'entraînement.
Mais il faut être patient avec lui parce qu'évidemment l'objectif pour lui c'est la fin de saison et la Coupe du Monde, évidemment.
Merci beaucoup David Lorto.
Parfait.
Merci messieurs, salut.
Salut, ciao, bon, ciao. On peut dire en tout cas que pour le Bayern Munich, hein, c'est quasiment plié la Bundesliga, 44 points après cette victoire. Et Schalke est deuxième avec 30 points, 14 points donc de retard parce que j'ai fait un rapide calcul de tête.
J'ai vu le coup franc de Rodriguez. Bah, on a l'impression qu'il téléguide le ballon dans la lucarne.
Ah, il est un pied gauche.
Et dire
qu'on l'avait à Monaco.
Merci beaucoup, très Daniel. Bon, merci, bon. Ali. Tout s'est bien
merci,
passé.
Merci, JC. Bravo.
Bravo à toi. Bravo.
Allez, on
se retrouve
très vite. Déjà demain pour l'Intégral Sport et le Super Football Show à partir de 17h sur RMC.
Je suis là.
Allez, merci à tous de nous avoir suivis sur RMC, sur BFM Sport. On vous souhaite une très très belle soirée. Et évidemment, l'information continue avec RMC. On se retrouve demain pour un magnifique week-end de sport. Passez une très très belle soirée. On vous embrasse. Salut.
RMC, le super football show, l'After Foot.